Dis à ton autre voisin, tu ne peux pas empêcher Dieu de t'aimer. Vous savez, quelquefois, les gens quelquefois disent, bah, moi j'aime pas Dieu. De toute façon, Dieu, j'en ai rien à faire. J'en ai rien à faire. Mais on sait tous qu'on ne peut pas aimer quelqu'un, on ne peut pas empêcher quelqu'un de nous aimer même si on ne l'aime pas. Hein? Bon, la Bible dit Dieu est amour. Donc, croyons-nous que ce que nous disons contre Dieu va l'empêcher de nous aimer? Dieu est amour, c'est sa nature. Tu ne peux pas empêcher Dieu de t'aimer. Quoi que ce soit que tu fasses, quoi que ce soit que tu dises. Ça ne veut pas dire que Dieu est d'accord avec tout ce que l'on fait. En général, ce que l'on fait qui n'est pas bon, eh bien, est mauvais pour nous. Dieu est saint, il ne peut pas être affecté par même mon péché. Mon péché ne peut pas changer Dieu. Donc, on ne peut pas empêcher Dieu de nous aimer. Moi, j'aimerais que tu le dises encore à quelqu'un d'autre, à l'autre voisin. Dis, tu ne peux pas, ou vous ne pouvez pas empêcher Dieu de vous aimer. Martin, s'il te plaît. Alors, eh bien, c'est Martin. Alors, c'est dommage parce que tes parents ne sont pas là. Et c'était prévu. Mais c'est pas grave. On dit,
ils écouteront.
Je leur dirai. Et non, j'aurais aimé. Mais bon, voilà. Il y a eu un concours de circonstances. Et ça n'était pas possible. Comme tu dis, ils écouteront.
Voilà. Sur le site.
C'était une bonne occasion pour faire la pub pour le. Pour le site là,
ELBN.org. Il y a tous les enseignements.
Il y a tous les enseignements. Et alors Martin, ta famille est arrivée en quelle année ici?
Oula, j'avais 11 ans, j'ai 25 ans maintenant. Donc,
c'est une éternité quoi.
Ouais.
Hein? Et tu avais 11 ans. Ouais. Et puis, entre-temps, tu es parti à Carice. Mm-hmm. Tu as fait 3 ans là-bas. Ouais. Et alors moi j'avais envie de t'entendre, j'avais envie d'entendre plutôt Dieu à travers toi. Je suis contente de t'entendre, mais je sais que Dieu peut parler à travers toi. Et donc, merci.
Amen, ouais, avec plaisir.
Merci à de
toi.
Partager et je vois que tu es déjà installé.
Voilà, c'est bon,
et tout,
tout est prêt.
Gloire à Dieu.
Super, merci pasteur. Donc oui, je m'appelle Martin et donc je reviens de 3 ans d'école biblique à Carice. Mais ça fait, faut calculer, 14 ans que je suis dans cette église avec ma famille. On a déménagé du sud-ouest de la France au sud-est, à ici, uniquement pour l'église. C'était notre seule raison pour déménager. Et à quel point ça a été worth it. Mince, maintenant je perds mes mots en français. Ça valait la peine, ça a valu la peine de venir ici, de déménager, de faire ce sacrifice, de quitter la région, notre famille, où on était bien, entre guillemets, pour venir dans un nouvel endroit, pour venir dans cette église. Pourquoi ? Parce que la parole y est prêchée, la parole vivante de Dieu qui change les vies, qui transforme les cœurs et qui donne une passion, qui réveille les passions dans les cœurs et qui fait vivre les gens pour la seule bonne raison qu'on a de vivre, c'est-à-dire le Christ, c'est-à-dire Jésus. Et donc, c'est une super église. Donc, merci, pasteur, de me donner l'opportunité de prêcher. Et bien sûr, c'est une église à laquelle, dans laquelle je reviens. C'est mon église, c'est mon pasteur et ça le restera. Donc, je suis vraiment content d'avoir l'opportunité de prêcher ici. Et donc, comme le pasteur l'a dit, j'ai fait 3 ans d'études bibliques à Carice Bible College. C'est Andrew Mack, je ne sais pas si vous connaissez. Donc, j'ai 3 ans au Colorado. Notamment avec Lance et avec Anna et avec d'autres amis qui vraiment viennent du monde entier. J'ai des amis maintenant qui se sont répartis en Afrique du Sud, en Angleterre, en Autriche, en Inde, de partout dans le monde, des gens, des jeunes qui ont suivi Dieu jusqu'au Colorado, jusque là où il les avait appelés et qui ont répondu à l'appel de Dieu. Donc Harry, ça a été une expérience extraordinaire où Dieu n'a vraiment pas éteint mon appel ou le feu que j'ai dans mon cœur pour la France. Au contraire, il a ravivé le cœur et la passion que j'ai pour ce pays, pour la France et pour la francophonie, pour voir un réveil dans la francophonie. Et c'est ce qu'on va voir. Une des paroles qu'on a reçues à Carice, parce qu'on a fait quelques réunions de prière spécifiquement pour la France, et une des paroles qu'on a reçues, c'est qu'il y a un tsunami Un tsunami, ça se passe, il y a les plaques tectoniques très profondes dans la mer que personne ne voit, qui bougent. Et une force est libérée de ces plaques tectoniques qui bougent, de ce mouvement. Une force est libérée, mais personne ne voit ce qui se passe. Personne ne voit ce qui se passe jusqu'à ce que la vague arrive tout près des côtes. Alors là, la vague grandit, et c'est trop tard, personne ne peut l'arrêter. Personne ne peut l'arrêter. Et elle va être plus puissante, elle va aller plus profondément et plus loin que ce que personne peut, que ce à quoi personne peut s'attendre. Ça, c'est français ? Personne ne peut s'attendre avec quelle force, avec quel impact le réveil qui va arriver en France va avoir. L'impact qu'il va avoir, ça va être énorme. C'est-à-dire que la force a été lâchée maintenant, et seuls ceux qui ont les outils pour voir l'invisible, c'est-à-dire le Saint-Esprit, c'est-à-dire vous et moi, on sait ce qui va se passer dans l'esprit. Et on sait qu'il y a une vague qui arrive, un réveil qui arrive sur la France et sur la francophonie. Et cette église va servir de réservoir, va servir de réceptacle pour la moisson. Parce que cette église est prête à recevoir des centaines et des milliers de personnes pour la moisson. Et donc on va voir les fruits du ministère, notamment des pasteurs Elisabeth et Marie-Hélène et de l'église en général. Ça va être un réceptacle pour la moisson. On est prêt à recevoir les milliers de personnes qui vont venir à Christ, qui vont entendre et répondre à la vérité. Mais ce n'est pas ce dont je veux parler aujourd'hui. Donc, merci Seigneur, parce que la parole qui va être dite aujourd'hui, Seigneur, touche les cœurs. Merci parce que Satan, tu ne voles pas les distractions, vous vous taisez dans le nom de Jésus. Et la parole, tu te plantes dans les cœurs de chacun aujourd'hui, dans le nom de Jésus, et tu vas porter du fruit. Merci parce que, Seigneur, ce que tu veux que je dise, Seigneur, et arrive clairement, Seigneur, et facilement dans les cœurs aujourd'hui, dans le nom de Jésus. Amen. Donc, on va commencer par lire un verset. 1 Corinthiens, chapitre 13, verset 4. Donc, il dit, « L'amour est patient. Il est plein de bonté, l'amour. Il n'est pas envieux. Il ne cherche pas à se faire valoir. Et il ne s'enfle pas d'orgueil. » Donc, aujourd'hui, je vais m'attarder sur la toute première partie de ce verset qui dit, « L'amour est patient. » Donc aujourd'hui, on va parler de la patience. De la patience qui est un élément clé pour vivre une vie épanouie en tant que chrétien et pour être équilibré dans sa marche avec Dieu. La patience. Donc la Bible nous dit que l'amour, parce que 1 Corinthiens 13, c'est le chapitre qui explique ce que c'est l'amour, qui donne la définition, une longue définition de ce qu'est l'amour et de tout ce qui est compris dans ce mot amour. Et donc la Bible nous dit que l'amour parvenu à pleine maturité chasse toute crainte. D'où l'importance de s'attarder sur ce que c'est l'amour. Si je veux vivre une vie sans peur, si je veux que toute crainte soit chassée de ma vie, il va falloir que je comprenne ce qu'est l'amour. Parce que si je ne comprends pas ce que c'est l'amour, si je ne m'y attarde pas, alors je laisse la porte ouverte à la peur. D'où l'importance de comprendre ce qu'est l'amour. Et ce n'est pas pour rien que la charité, c'est le type d'amour que Dieu a dans la Bible. C'est pour ça que là, c'est marqué la charité, mais dans ma version, c'est l'amour. L'amour est patient. La charité est patiente. Et ce n'est pas pour rien que c'est ce mot qui vient là en premier, que c'est le mot patience qui vient en premier. La vérité est que sans patience, votre foi est faible et elle est inefficace. Votre foi n'a aucune racine sans la patience. Sans patience, vous n'aurez ni l'envie, ni le courage d'aller vous réfugier dans la parole de Dieu. Si j'ai toute la foi du monde, si je crois que Dieu est capable de faire ci, de faire ça, tout ça, mais que je n'ai pas la patience d'attendre la manifestation des promesses de Dieu, alors je vais être frustré, je vais être un chrétien frustré qui n'aura même pas la force et même pas l'envie d'aller dans la parole de Dieu. Parce que je me dirais, c'est une perte de temps, mais qu'est-ce que je fais ? Je n'aurai pas la base pour aller me nourrir dans la parole de Dieu. Il faut la patience, il faut être patient pour aller me nourrir, pour aller passer du temps dans la parole de Dieu. Parce que dans le naturel, je ne fais que lire un livre. Mais il faut voir les choses invisibles, l'impact que ça a dans le spirituel. Et pour ça, il faut être patient. Si je ne suis pas patient, je n'aurai pas la force d'aller me nourrir, d'aller chercher ma nourriture dans la parole de Dieu. Donc, Hébreux 6, 12 nous dit, vous n'avez pas besoin de tourner là, je vais vous le lire. « Ainsi, vous ne vous relâcherez pas, mais vous imiterez ceux qui, par leur foi et leur attente patiente, ou et leur patience, reçoivent l'héritage promis. » Comment est-ce qu'on reçoit l'héritage promis ? Par la foi et par la patience. La foi et la patience sont un duo invincible. Invincible. Donc, voulez-vous recevoir l'héritage que Dieu a pour vous? Qui est-ce qui veut recevoir l'héritage que Dieu a préparé avant les fondations du monde pour vous? Qui est-ce qui veut recevoir cet héritage-là? Alors, il va falloir vivre par la foi et faire preuve de patience. Si vous vivez par la foi et que vous faites preuve de patience, alors vous êtes invincible. Rien ne peut vous vaincre. Rien. Donc, la patience, on va voir que c'est un besoin universel. La patience est une chose dont nous avons tous besoin. Personne n'est exempt de ce besoin. On a tous besoin de la patience. Il n'y a pas d'exception. Et on en a tous besoin pour accomplir quoi que ce soit d'éternel dans le royaume de Dieu et de solide. On a besoin de cette patience. Donc, on va parler vite fait du facteur temps. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais parler du facteur temps parce que c'est un élément clé à prendre en compte lorsque l'on parle de la patience. Forcément, la patience, c'est une question de temps, de longévité de temps. Donc, nous devons tous considérer le facteur temps et notre relation à celui-ci, notre relation au facteur temps. À quoi pensez-vous lorsque je vous dis le mot temps ou gestion de temps? Est-ce que ce qui vous vient à l'esprit, c'est que vous n'en avez pas assez, que vous ne faites que gaspiller votre temps, qu'il vous faut davantage de temps, vous n'avez pas, pas assez de temps tout simplement et qu'il vous en faut davantage? Est-ce que c'est ça qui vous vient à l'esprit? Pensez-vous que le temps vous file entre les doigts et que vous n'allez pas avoir assez d'années et de mois et d'années pour faire ce que vous avez à faire? Est-ce que c'est ça que vous pensez quand vous entendez le mot temps? La vérité, c'est que beaucoup de gens et beaucoup de chrétiens ont ce problème avec le temps. Ils pensent qu'ils n'en ont pas assez. Ils pensent que le temps leur file entre les doigts. Alors que le temps, c'est un don de Dieu. Et il sait ce que vous avez à accomplir et il vous en donne assez. La vérité, la réalité est que vous n'aurez jamais plus de temps que ce que vous avez maintenant. Personne ne peut prendre votre temps. Personne ne peut vous rajouter du temps. Personne ne peut prendre votre temps à moins que vous autorisiez les autres à prendre votre temps. Mais vous êtes le seul gestionnaire de votre temps. Vous décidez la manière dont vous gérez votre temps. D'accord ? Et vous pouvez apprendre à mieux le gérer. Vous pouvez faire appel à la sagesse de Dieu pour gérer votre temps et pour l'utiliser de manière optimale. Donc la question n'est donc pas « avez-vous assez de temps ou non ?» La question est « comment gérez-vous le temps qui vous est donné ?» Et nous allons voir qu'être patient va nous aider à mieux gérer et utiliser notre temps. Donc on va rapidement lire la définition du mot « patience ». Donc c'est la résignation. Le courage pour supporter. Et en tant que chrétien, ça se rapporte beaucoup à la vie chrétienne. Donc résignation, le courage pour supporter. L'aptitude à persévérer dans une activité. Un travail de longue haleine, sans se décourager. Qualité d'une personne qui sait attendre en gardant son calme. On peut chacun s'examiner. Est-ce que je sais attendre en gardant mon calme? Pas seulement en gardant un calme apparent. Ça, pour moi, c'est facile, par exemple. Tout le monde dit « Oh, il est calme. » Mais des fois, à l'intérieur, je ne suis pas calme. Mais je garde un calme apparent, un calme d'apparence. Mais est-ce que je suis calme dans mon cœur? Est-ce que quand vous attendez quelque chose, est-ce que quand il y a une situation peut-être urgente dans votre vie, est-ce que vous savez faire preuve de patience? Est-ce que vous savez garder le calme que Dieu a placé en vous? Est-ce que votre cœur est calme ou non? Et donc là, vous pouvez répondre, est-ce que vous faites preuve de patience ou non? Et donc, synonyme de patience, il y a constance ou persévérance. Et quand on parle de calme, il y a Lamentations, chapitre 3, verset 26, qui dit « Il est bon d'attendre en silence la délivrance de l'Éternel, que l'Éternel opérera. » Amen. Il est bon d'attendre en silence la délivrance que l'Éternel opérera. Est-ce que je sais? Parce que là, on voit que la personne dont les questions a besoin de délivrance. C'est-à-dire qu'elle est dans une situation critique. Elle est dans une situation difficile. Est-ce que moi, quand je suis dans une situation critique et difficile, est-ce que j'ai la capacité d'attendre en silence que l'Éternel opère la délivrance? Qu'il va opérer de toute façon? Est-ce que j'ai cette capacité d'attendre en silence? Et Jésus dit, de toute façon, ton inquiétude, elle va faire aucune différence. Que tu t'inquiètes ou que tu ne t'inquiètes pas, le Seigneur va opérer la délivrance. Donc pourquoi est-ce que tu t'inquiètes? Tout a été acquis à la croix. La victoire a été gagnée à la croix. Donc la patience, on va voir maintenant que c'est un fruit de l'esprit. C'est-à-dire que la patience est en moi. Elle a été placée en moi lorsque j'ai reçu le Saint-Esprit. Donc vous savez quand on dit l'expression « perdre patience »,« oh je perds patience, je commence à perdre patience », etc. En réalité, lorsqu'un chrétien dit ça, il ment. Parce qu'un chrétien ne peut pas perdre patience. Ce n'est pas possible. C'est un fruit de l'Esprit qui a été placé, scellé en lui par le Saint-Esprit. Donc vous et moi ne pouvons pas perdre patience. C'est impossible. Pourquoi ? Encore une fois, parce que c'est un fruit de l'Esprit. Donc la patience est en moi et rien ne peut me l'ôter. C'est strictement impossible. Elle est à ma disposition. Il me faut simplement en être conscient et m'en saisir. Il faut que je sois conscient de ce que Dieu a placé en moi et il faut moi-même que je m'en saisisse, que je l'utilise. Mais être conscient, c'est la première étape. Mais maintenant, vous êtes tous conscients que Dieu a placé la patience en vous et vous allez pouvoir tous faire preuve de patience. Et Galates 5, 22-23, donc c'est le verset qui dit que la patience est un fruit de l'Esprit. À chaque fois, je ne vous laisse pas beaucoup le temps de tourner parce que je n'ai pas beaucoup de temps non plus. mais il y a des versets importants, je vous laisserai le temps de tourner, sinon je les lis directement. Donc Galates 5, 22-23, « Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. » Maintenant, vous allez me dire, bah, « C'est bien beau, c'est dans mon esprit, c'est un fruit de l'Esprit, mais je ne le vois pas du tout. » je ne le vois pas se manifester dans ma vie. Alors on va voir maintenant comment accéder aux fruits de l'Esprit. Comment puiser dans ces fruits de l'Esprit. Comment accéder à cette patience qui m'a été donnée. Donc il y a beaucoup de chrétiens qui malheureusement ne savent pas comment puiser du tout des fruits de l'Esprit. Ils savent que c'est en eux, mais ils ne savent pas comment y accéder. Ils ne savent pas ce que sont les clés de leur esprit. Donc pour eux, les fruits de l'esprit ne sont pas une réalité parce qu'ils n'en font pas l'expérience. Et ils finissent par penser qu'ils sont inaccessibles et qu'ils auront la patience, oui, au ciel. Alors que non, c'est aujourd'hui qu'on a la patience, c'est aujourd'hui qu'on a accès à la patience. Alors, à la croix, Jésus nous a donné accès à tout ce que l'Esprit de Dieu voulait nous donner. À tout ce que l'Esprit de Dieu voulait nous donner. Donc un peu plus haut dans Galates 5, la parole nous dit « Menez votre vie dans la dépendance du Saint-Esprit ». Et vous n'obéirez pas aux désirs qui animent l'homme livré à lui-même. Car ces désirs sont diamétralement opposés à ceux de l'esprit. Et l'esprit a des désirs qui s'opposent à ceux de l'homme livré à lui-même. Les deux sont opposés l'un à l'autre, donc les désirs de la chair et les désirs de l'esprit. C'est pourquoi vous ne pouvez pas être votre propre maître. Vous ne pouvez pas être votre propre maître. Mais si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes plus sous le régime de la loi. Mais si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes plus sous le régime de la loi. Donc il faut premièrement réaliser que les désirs de ma chair, mes désirs charnels, ne sont pas les désirs de l'esprit. Il y en a beaucoup qui croient, je suis sauvé, maintenant tout ce que j'ai envie de faire, c'est Dieu qui place les désirs en moi. Non, j'ai toujours les désirs de la chair, qui perdent de leur influence au fur et à mesure des années dans ma vie, au fur et à mesure que je me donne à l'esprit et que je me soumets à l'esprit, mais j'ai toujours ces désirs de la chair. Donc, il faut réaliser que les désirs de ma chair sont opposés à ceux de l'esprit et que je dois me soumettre, c'est une décision, je dois décider de me soumettre à l'esprit pour pouvoir donner vie à ce qui a été placé en moi. Donc premièrement, je me soumets à l'esprit. J'abandonne mes désirs charnels, je me soumets à l'esprit. Et ça va donner vie à ce qui a été placé en moi. Si la chair est votre maître, alors c'est la chair qui va produire du fruit dans votre vie. Si l'esprit est votre maître, encore faut-il décider de s'y soumettre. Mais si l'Esprit est votre maître, alors c'est l'Esprit qui portera du fruit. Et c'est les fruits de l'Esprit qui prendront vie en vous. Donc je ne peux pas faire ce que bon me semble en tant qu'individu. Je ne suis pas mon propre maître, encore une fois ce qu'a dit le verset. Et ensuite il est dit, mais si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes plus sous le régime de la loi. Pour puiser et utiliser ce qui a été déposé dans mon esprit, donc dont la patience, il me faut vivre sous le régime de la grâce. Je ne peux pas être sous le régime de la loi et puiser des choses de l'esprit. C'est impossible. C'est impossible. Je ne peux pas être sous la condamnation, sous la culpabilité, sous les commandements, sous la loi et puiser des choses de l'esprit. Ça ne va pas ensemble. Je dois être sous le régime de la grâce pour puiser des choses de l'esprit. Et lorsque je réalise que je suis sauvé, on va voir ce que c'est le régime de la grâce. C'est lorsque je réalise que je suis sauvé sur la base de ma foi et de ma foi seulement. Et donc, lorsque je réalise que je suis sauvé sur la base de ma foi et non sur la base de mes œuvres, parce que je crois et non parce que je fais, alors je reçois cette liberté inexplicable, cette liberté qui est plus grande que tout ce que j'aurais pu imaginer. Et je peux enfin opérer dans l'esprit. Si je me soumets à l'esprit, que je réalise que ma chair Ces désirs sont mauvais. Je me soumets aux désirs de l'esprit, qui eux sont bons, sont éternels. Je me soumets aux désirs de l'esprit et je me mets sous le régime de la grâce en réalisant que je suis sauvé par la foi et par la foi seulement, purifié, sanctifié par la foi seulement, alors je peux opérer dans les choses de l'esprit. Donc la grâce de Dieu, c'est le fondement d'une vie épanouie. Sans la grâce, il n'y a pas d'épanouissement. Sans la grâce, la terre n'est pas bonne. Et toutes les graines vont finir par être corrompues. La grâce, c'est la base, c'est la terre pour vivre une vie épanouie, et passionnée, et libre. Donc si je ne la comprends pas, je suis esclave du péché. Si je ne comprends pas ce qu'est la grâce, je vais être esclave du péché. Mais si je la comprends, alors je suis libéré du péché. Et ça, on le voit dans Romains 6, 14, parce qu'il y en a beaucoup qui disent « C'est bien beau la grâce, mais je peux faire ce que je veux. Je vais faire que péché, du coup, vu que mes péchés passés, présents et futurs ont été pardonnés. » Si je vous dis ça, bah allez-y, faites ce que vous voulez. Allez vivre dans la débauche. Mais si quelqu'un vit dans le péché, si quelqu'un vit dans la débauche, ça me dit une seule chose, c'est que cette personne ne vit pas sous la grâce. Et la réponse se trouve dans Romains 6, 14, où Paul dit « Car le péché ne sera plus votre maître. Pourquoi ? Puisque vous n'êtes plus sous le régime de la loi, mais sous le régime de la grâce. » Si je suis sous le régime de la grâce, si je réalise que je suis sauvé par ma foi seulement, que je suis purifié parce que j'ai mis ma foi en Christ, que Dieu n'est pas en colère contre moi, que Dieu ne sera jamais en colère contre moi, que Dieu ne me punira pas parce qu'il a puni son fils à la croix, parce qu'il a toute sa colère, il a placé sur son fils à la croix. Si je réalise ça, alors le péché n'exercera plus d'autorité et d'influence dans ma vie. Le péché ne sera plus mon maître, mais je serai vraiment libre. Et c'est pour la liberté que Christ est venu nous racheter. En tant que chrétiens, nous devrions être une foule libre, complètement libre. On devrait avoir une liberté dingue en Christ, mais pas pour pécher, mais pour vivre pour la justice. Et pour être des exemples et des lampes dans les ténèbres, des lumières dans les ténèbres. Donc si je comprends que je suis aimé et accepté par grâce, à ce que Jésus a fait à la croix, et non grâce à mes bonnes œuvres, ce n'est pas parce que vous avez fait plus de bonnes œuvres que moi que Dieu vous a sauvé. La seule raison pour laquelle vous êtes sauvés, parce que vous avez mis votre foi en Christ, dans ce que Jésus a fait à la croix. Donc si je réalise que je suis devenu l'enfant de Dieu parce que j'ai cru en Christ, et non parce que j'ai respecté les 10 commandements, alors je pourrai puiser des fruits de l'Esprit et être patient. Être conduit par l'Esprit, c'est être sous le régime de la grâce, sont deux choses indissociables. Être conduit par l'Esprit et être sous le régime de la grâce sont deux choses indissociables. Donc comment puiser des fruits de l'Esprit, dont la patience ? Un, je me soumets à l'Esprit de Dieu. Je décide de me soumettre à l'Esprit de Dieu et à épouser ses désirs et à divorcer de mes désirs. Ça, c'est la première étape. Je me soumets à l'Esprit de Dieu. Et deux, je marche dans la grâce. Je marche dans la grâce. Je marche dans cette réalité que Jésus m'a pardonné, m'a rendu pur et saint à la croix pour l'éternité. Et parce que j'ai cru, j'ai été justifié et rendu parfait aux yeux de Dieu. Donc maintenant, j'aimerais bien qu'on voit rapidement l'exemple de Moïse et qu'on voit l'importance de refuser le visible et le temporaire. Donc on voit que Moïse a fait preuve d'une immense patience. Il est un exemple de patience. Il a refusé la gratification immédiate. Beaucoup trop de chrétiens, notamment dans ce qui est amoureux, relations, etc., ils vont trop vite. Ils vont à une vitesse qui est malsaine, ils se trompent et ça a des conséquences jusqu'à la fin de leur vie, quasiment. Et il faut refuser cette gratification immédiate qui, dans l'amour, qui, dans la relation, peut être vraiment immédiate. Je parle des relations sexuelles et tout ça, ça peut être une gratification immédiate. Dans la chair, on a du plaisir. Mais quelles conséquences ça va avoir dans l'esprit ? Quelles conséquences ça va avoir sur l'image que je me donne, sur la manière dont je me vois ? Et Dieu peut racheter ça, et Dieu a racheté ça à la croix. Et vous êtes purifiés et lavés à la croix. Mais maintenant qu'on sait qu'on vit sous la grâce, on a la capacité de dire non au péché et à la gratification immédiate, comme Moïse l'a fait. Donc Moïse était dans la famille du Pharaon et il aurait pu vivre dans la richesse et l'opulence. Il vivait dans la richesse et l'opulence. Il aurait pu continuer à vivre dans la richesse et l'opulence. Mais il a choisi de tout abandonner, tout abandonner, les richesses de l'Égypte. Je ne sais pas si vous vous imaginez. C'est de l'or, c'est une vie de gloire. On ne peut même pas s'imaginer aujourd'hui à quel point ils étaient riches et puissants. Il a choisi de tout abandonner. Pourquoi ? Pour accomplir la destinée que Dieu avait pour sa vie. Et on sait qu'il a dû faire preuve de patience, car ce n'est que des dizaines d'années après avoir quitté la maison du Pharaon qu'il a vu les promesses de Dieu s'accomplir dans sa vie. Des dizaines d'années. Et on va voir comment il a eu la force de faire ça. Donc on va voir ce qui lui a donné la force de dire non aux richesses visibles et immédiates et de faire preuve d'une grande patience, d'une patience divine, la patience qui vient de Dieu. Et là, je vous laisse tourner avec moi. Par contre, c'est Hébreux, chapitre 11, versets 24 à 27. Hébreux, chapitre 11, versets 24 à 27. Donc, il dit, « Par la foi, Moïse, devenu adulte, a refusé d'être reconnu comme le fils de la fille du Pharaon. » Pour nous aujourd'hui, ça veut dire qu'il a refusé d'avoir une promotion qui allait dans un travail qui allait le payer 1 million d'euros. Parce qu'il savait que ce n'était pas de Dieu, bien sûr. Des fois, la promotion vient de Dieu. Mais si dans un cas, ça ne vient pas de Dieu et ça appelle à des compromis, est-ce qu'on va être prêt à refuser ça ? Moïse, on voit qu'il a refusé d'être reconnu comme le fils de la fille du Pharaon. La gloire, l'honneur, le pouvoir, l'argent. Il a choisi de prendre part aux souffrances du peuple de Dieu plutôt que de jouir momentanément. Alors, je ne sais pas si c'est mis dans cette version. Pour un temps, momentanément, d'une vie, quoi ? Dans le péché. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de vie, oui, ça c'est moyennement bien, je fais le bien. Il n'aurait pas fait de mal en restant le fils du Pharaon, le fils de la fille du Pharaon. Il n'y a rien de mal à ça. Mais la Bible nous dit que s'il avait choisi ça, s'il avait compromis la vérité qu'il avait dans son cœur et l'appel de Dieu qu'il avait sur sa vie, alors il aurait fait quoi ? Il aurait joui d'une vie dans le péché. Il n'y a rien de mal de l'extérieur, être le fils de la fille du Pharaon. Ce n'est même pas lui qui l'a choisi. Il n'y a rien de mal. Mais s'il avait fait, s'il avait compromis la vérité que Dieu avait mis dans son cœur, s'il n'avait pas suivi ce que Dieu avait mis dans son cœur, il aurait vécu une vie dans le péché. Donc, ce n'est pas forcément faire quelque chose de mal, de terrible, commettre un meurtre, commettre l'adultère, dadadada. Non, ça peut être quelque chose simplement refusé, simplement ne pas suivre son cœur, simplement ne pas écouter le Saint-Esprit en nous. Ça aussi, c'est vivre une vie dans le péché. Car, estimait-il, donc ça, c'est la raison pour laquelle il a pu suivre l'appel de Dieu sur sa vie et refuser toutes les richesses immédiates et la gloire immédiate, car, estimait-il, subir l'humiliation que Christ devait connaître constituait une richesse bien supérieure au trésor de l'Égypte. Donc je traduis, être affilié au Christ, même dans ses souffrances, c'était bien supérieur pour lui que d'être affilié à l'Égypte dans toute sa gloire. Et pour nous, il faut qu'on choisisse. Et on voit que Moïse a été béni, énormément béni. On voit qu'il a eu une descendance énorme, donc Dieu l'a béni, plus que ce que l'Égypte aurait pu le bénir. Mais il a pris la décision avant de voir la bénédiction. Avant d'être béni, il a pris la décision qu'il allait suivre l'Éternel. Est-ce qu'on a pris cette décision, nous, dans nos vies ? Qu'on va suivre l'Éternel ? Peu importe, que je préfère être affilié au Christ dans ses souffrances qu'être affilié à notre société, à ma société dans toute sa gloire. On voit que la gloire de Dieu, qu'être affilié au Christ, même dans ses souffrances, c'est bien supérieur à tout ce que le monde a à nous offrir. Et maintenant, il est dit, il avait en effet, donc Moïse avait en effet, les yeux fixés sur la récompense à venir. Par la foi, il a quitté l'Égypte sans craindre la fureur du roi et il est resté ferme en homme qui voit le Dieu invisible. Est-ce que dans nos vies, est-ce que vous, est-ce que moi, est-ce que nous voyons le Dieu invisible ? Est-ce que nous avons décidé de fixer nos yeux sur, comme il est dit là, la récompense à venir ? Sur les choses invisibles, sur les choses éternelles. Comme Moïse, si nous voyons le Dieu invisible, alors nous pourrons faire l'impossible. et nous pourrons dire non à l'attrait de ce monde qui parfois est fort. Moi, j'ai 25 ans, j'ai eu des tentations de refuser, de dire non, je veux pas aller au Colorado. En plus, je savais pas du tout à quoi m'attendre. J'ai vraiment eu des tentations à ne pas y aller, à prendre un travail, un appartement, voir une copine, peu importe, parce que la gratification était immédiate. Mais à quel point la gloire de Dieu a plus de valeur. Vivre pour les choses éternelles et vivre pour les choses invisibles, il n'y a rien qui vous apportera plus de paix que ça, plus de joie que ça. C'est juste énorme, c'est juste énorme. Le monde ne peut pas nous apporter ce que Dieu a à nous donner. Et donc on voit, encore une fois, je vais relire, par la foi, Moïse a quitté l'Égypte. Donc l'Égypte, ça peut être n'importe quoi dans votre vie, un compromis que vous avez fait dans votre vie. Par la foi, vous pouvez quitter ce compromis sans craindre la fureur des circonstances, sans craindre la fureur de votre entourage, sans crainte de fureur. Et vous pouvez rester ferme en homme ou en femme qui voit le Dieu invisible. Donc encore une fois, suis-je quelqu'un qui voit le Dieu invisible ? Mes yeux sont-ils fixés sur la récompense à venir ? Sur la récompense à venir ou sur les circonstances, les biens matériels, les richesses temporaires qui toutes perdront bien vite de leur éclat. C'est ce qui va déterminer ce à quoi je donne ma vie. C'est-à-dire que si je suis plus conscient des choses invisibles et spirituelles, c'est ce pour quoi je vais donner ma vie. Mais si mes yeux sont fixés sur quelque chose d'autre et que je suis plus conscient des choses matérielles et des besoins de ma chair, alors c'est ce pour quoi je vais donner ma vie. C'est-à-dire qu'on ne se réveille pas un matin en disant « Ah bah tiens, non, je vais donner ma vie à Dieu ce matin. » Non, c'est ce sur quoi vos yeux sont fixés, vous allez donner votre vie pour ça. Même sans le vouloir parfois. Vous voulez vous donner votre vie à Dieu, vous voulez vivre pour Dieu, mais vos yeux sont fixés sur les circonstances. Les yeux sont fixés sur le temporaire, sur aujourd'hui, sur demain, sur vos problèmes. Alors vous allez donner votre vie pour ça. Alors tout ce que vous allez faire, ça va être motivé par le temporaire. Ça va être motivé par le visible. Et ça crée des chrétiens frustrés, ça crée des chrétiens qui ne voient pas la puissance de Dieu dans leur vie. Il faut prendre une décision que je vais vivre pour l'invisible, que je vais vivre pour la récompense qui a été placée devant moi et que je vais vivre pour Christ. Donc, et je peux très bien être chrétien, encore une fois, et avoir les yeux sur ma chair. C'est pas parce que je suis chrétien que j'ai les yeux sur les choses spirituelles, sur mon esprit. Je peux très bien être chrétien et avoir les yeux sur ma chair. Je peux très bien être chrétien et courir la mauvaise course toute ma vie. On va voir maintenant l'importance de magnifier Dieu plutôt que les circonstances. Donc, savez-vous que vous pouvez rendre Dieu plus grand ou plus petit dans votre vie ? C'est vous qui déterminez. C'est-à-dire que dans beaucoup de passages des Écritures, le mot traduit par « glorifier » est le même mot que « magnifier » qui signifie « agrandir ». Donc la Bible nous dit de glorifier Dieu, c'est-à-dire de nous concentrer sur lui et de lui donner l'importance qui lui revient, à Dieu et à Dieu seulement. Glorifier Dieu, c'est-à-dire donner à Dieu l'importance qui lui revient. Adorer Dieu pour qui il est. Et il est. Tout ce dont j'ai besoin, il est. Il a déjà tout pourvu à la croix. Donc techniquement parlant, Dieu est immuable, bien sûr. C'est-à-dire que sa taille ne change pas. Et peu importe ce que je pense de lui, ce que vous pensez de lui, il reste le même. Dieu est immuable, techniquement parlant. Mais votre perception de Dieu peut rendre Dieu plus ou moins grand dans votre vie. Selon ce sur quoi vous fixez vos pensées, vous allez agrandir ou diminuer l'influence de Dieu sur votre vie. Ma main, là, elle fait la même taille. Que vous soyez derrière, que je sois tout proche, elle fait la même taille. Mais moi, je la vois énorme. Je la vois aussi grande que Marie-Hélène. Mais Jenny, Jenny, elle la voit aussi petite, même plus petite que Ethan. Elle est toute petite pour elle, ma main. Parce qu'elle, elle est loin. Parce qu'elle a choisi de pas... Enfin, je dis pas Jenny, hein, mais... Elle a choisi de pas se concentrer sur les choses qui comptent. Je peux affecter la taille et l'influence que Dieu a dans ma vie. Donc, beaucoup d'entre nous deviennent maîtres, beaucoup de chrétiens deviennent maîtres dans l'art d'agrandir le problème et les circonstances, et de diminuer ou minimiser Dieu dans sa parole. Donc il faut choisir de donner à Dieu, encore une fois, l'importance qui lui revient. Et il faut choisir de remettre notre avenir entre ses mains et de lui faire confiance. Philippiens 1:6 dit « Et j'en suis fermement persuadé. Celui qui a commencé en vous son œuvre bonne, donc Dieu, la poursuivra jusqu'à son achèvement au jour de Jésus-Christ. » Donc en fait, il faut réaliser ce à quoi ressemble vraiment notre futur. Dieu est capable de finir l'œuvre qu'il a commencé en vous. Il est capable de le faire et il va le faire. Donc il faut réaliser ce à quoi ressemble vraiment notre futur pour pouvoir faire preuve d'une persévérance sans faille et ainsi rendre manifeste et évident le caractère bon, doux et patient de Dieu. Sans patience, je ne pourrai pas rendre évident le caractère de Dieu. Je serai frustré, je serai énervé, je serai tout ce que vous voulez, tout sauf le caractère de Dieu. Et il n'y aura aucune différence dans ma réponse au problème de la vie que la réponse de mon voisin qui n'a pas Dieu. Et ça, ce n'est pas normal. On devrait voir une différence concrète. Je ne vais pas lire ça parce que ça va être trop long. Enfin, je vais lire le début. 2 Corinthiens 4, 8 à 9, qui dit « Ainsi, nous sommes accablés par toutes sortes de détresses. » En tant que chrétien, oui, on va connaître des détresses. « Et cependant, jamais écrasés. » Accablés, mais jamais écrasés. « Nous sommes désemparés, mais non désespérés. Persécutés, mais non abandonnés. Terrassés, mais non pas anéanti. » Est-ce que je crois en cette promesse? Parce que si je crois en cette promesse, alors je pourrai faire preuve de patience dans ma vie. Que Dieu sera toujours là pour moi. Donc la Bible le répète, je dois vivre les yeux. Parce que là, il est marqué à la fin du verset 2 Corinthiens 4, chapitre 18. Il est dit, donc on supporte toutes ces choses parce que les choses visibles, les détresses de ce monde sont temporaires. Sont toutes temporaires. Car les réalités visibles ne durent qu'un temps, mais les invisibles demeureront éternellement. Donc la Bible le répète, je dois vivre les yeux fixés sur ce qui est invisible, et alors, et seulement alors, je verrai l'impossible. Je vivrai une vie de miracle et de paix, de joie et d'espérance. Je pourrai faire preuve d'une patience infinie, car peu importe quels sont vos problèmes, peu importe, écoutez ça et méditez sur ça, peu importe quels sont vos problèmes, ils sont temporaires. Notre Dieu, lui, est éternel et nous allons passer l'éternité à ses côtés dans sa gloire. C'est une vérité qui est juste énorme, qui peut vous faire exploser de joie à l'intérieur. Donc je veux maintenant que vous pensiez à un problème que vous avez dans votre vie. Un problème auquel vous devez faire ça peut être un problème physique, une maladie, des problèmes financiers, des problèmes dans vos relations, des problèmes émotionnels. Pensez à un problème que vous avez dans votre vie. Et peu importe ce à quoi vous pensez, maintenant, vous savez, cette situation a une fin. Arrêtez de fixer vos pensées sur ce problème et tournez-les vers Dieu, le Dieu éternel, le Dieu invisible mais éternel. Vos problèmes, peu importe ce à quoi vous pensez, sont temporaires. Alors que notre Dieu, lui, est éternel. Alors que nous sommes éternels et rendus justes pour l'éternité. Donc la patience, c'est donc l'assurance de la victoire. La patience, c'est l'assurance de la victoire. Et attention, la patience, ce n'est pas l'inaction. La patience, c'est ce qui devrait caractériser nos actions. Les rendre sûres et précises, paisibles et joyeuses. C'est-à-dire que le mot traduit par patience ou persévérance dans la parole, dans la Bible, c'est souvent le grec « upomone », qui signifie, écoutez, une endurance joyeuse ou remplie d'espoir, une constance, une stabilité. Une endurance joyeuse ou remplie d'espoir. Est-ce que ma vie ressemble à ça? Est-ce que j'endure les choses de manière joyeuse et remplie d'espoir avec la paix que Dieu me donne? Donc la patience, c'est d'abord faire confiance à Dieu, en ce qu'il nous a promis, et réaliser la grandeur de ce qu'il nous a offert à la croix, c'est-à-dire la vie éternelle. La patience permet aussi de remettre les choses en perspective et de faire preuve de sagesse. Sans patience, il n'y a pas de sagesse. Comme disent les Suisses, il n'y a pas le feu au lac. Et sans patience, ce n'est pas la paix, mais c'est la confusion qui va régner et qui va porter du fruit dans ma vie. La patience est un état de confiance totale et de paix immuable envers Dieu. Et la paix est une paix profonde et immuable que Dieu me donne. Donc si on est réfléchit, peut-on dire que votre foi, que ma foi, est réelle et efficace si l'attente est incertaine, confuse et troublée? Est-ce qu'on peut dire que c'est une foi qui est vivante, qui est puissante, qui est efficace? Si pendant que j'attends que les promesses arrivent, je suis troublé, je suis impatient, je suis confus. Si dans l'attente de voir s'accomplir les promesses de Dieu, je ne fais que me plaindre et déprimer, est-ce que je suis vraiment dans la foi ou est-ce que je suis dans la chair? Et donc la réponse est évidente, je suis dans la chair. Et si je sème dans la chair, qu'est-ce que je vais récolter? On l'a vu avant, la corruption, ce qui signifie la mort dans des situations où en tant que chrétien, j'ai pourtant accès à la vie par la foi et la patience. Et je vais mentionner rapidement l'impatience, donc, ou le manque de patience, qui ouvre une voie royale au compromis. C'est-à-dire que si je ne suis pas prêt à attendre patiemment dans la confiance, alors je vais compromettre, je vais faire des compromis, c'est obligé. Je vais me vendre au péché, je vais essayer d'obtenir les promesses par mes propres forces sans jamais y arriver. Je vais être constamment déçu et frustré et je n'expérimenterai jamais la vie abondante que Dieu a acquise pour moi à la croix. Jamais. Si je suis impatient. Donc je le répète, l'impatience est mortelle car elle ouvre une voie royale au compromis. Donc en conclusion, rappelons-nous que nous avons tous accès à la patience. Elle nous a été donnée à tous, elle a été placée dans notre esprit, que Dieu a placée donc dans notre esprit et que c'est un élément clé pour être un chrétien épanoui et heureux, la patience. Cette patience est accessible. La patience d'attendre de voir s'accomplir les promesses de Dieu, la patience envers soi et envers ceux qui nous entourent. Qui a besoin de la patience envers soi déjà et envers ceux qui nous entourent? Elle est accessible. Pour y accéder, concentrons-nous sur les réalités éternelles et invisibles. C'est-à-dire qu'il nous faut aussi vivre sous le régime de la grâce, c'est-à-dire se rappeler chaque jour, c'est quelque chose qu'on oublie très vite, il faut se rappeler chaque jour que nous avons été rendus purs et justes pour l'éternité, que nous avons été sauvés par grâce au moyen de la foi et que je suis réconcilié avec Dieu pour l'éternité indépendamment de ce que je fais, indépendamment de mes œuvres. Et indépendamment des circonstances dans lesquelles je suis. Mon Dieu est éternel, mes problèmes sont temporaires. Donc lisons maintenant les mots de l'apôtre Paul qui devraient être les nôtres à la fin de notre vie. Ça devrait être ce qu'on dit à la fin de notre vie. 2 Timothée 4, versets 6 à 8, qui dit « Car en ce qui me concerne, je suis prêt d'offrir ma vie comme une libation pour Dieu. » Paul était à un point dans sa vie, il était prêt à s'offrir en sacrifice, à se sacrifier pour la parole, à se sacrifier pour Jésus. Le moment de mon départ est arrivé. J'ai combattu le bon combat. Est-ce qu'on va pouvoir dire ça à la fin de notre vie? J'ai combattu le bon combat. Amen. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé ma course. J'ai gardé la foi. Telle une couronne, la justice que Dieu accorde est déjà préparée pour moi. Le Seigneur, le juste juge, me la remettra au jour du jugement. Et pas seulement à moi, mais à tous ceux qui, avec amour, attendent sa venue. Ça, c'est nous. À tous ceux qui, avec amour, attendent sa venue. Avec amour, l'amour qui, encore une fois, est patient. L'amour est patient. Et là, je n'ai pas le temps de m'attarder sur ça, mais la justice, il a gardé la foi que la justice, la couronne de la justice qui allait lui être remise dans les cieux, c'est une couronne de la justice qui lui a été acquise à la croix. Il a gardé sa foi en Christ et il n'a pas mis sa foi en ses œuvres. Et donc, je finis avec un verset sur lequel on peut tous méditer cette semaine. C'est Hébreux, chapitre 10, versets 34 à 39. Donc ça, c'est le devoir pour tout le monde. Hébreux 10, 34, 39. On peut tous méditer sur ce verset qui est rempli de vie, rempli d'espérance et qui parle de patience. Oui, vous avez pris part à la souffrance des prisonniers. Donc, la Bible ne nie pas votre souffrance, mais elle dit, peu importe la souffrance que tu dois traverser, peu importe les problèmes que tu connais, tu peux les traverser avec joie, avec endurance et avec une attente joyeuse, avec patience. Oui, vous avez pris part à la souffrance des prisonniers et vous avez accepté avec joie d'être dépouillés de vos biens car vous vous saviez en possession de richesses plus précieuses et qui durent toujours. N'abandonnez donc pas votre assurance, une grande récompense lui appartient car il vous faut de la persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qu'il a promis. On peut méditer sur les deux parties de phrases qui viennent. Encore un peu de temps. Un tout petit peu de temps, c'est écrit dans la version Bible du Semeur. Encore un peu de temps. Un tout petit peu de temps. Et celui qui doit venir, viendra. Il ne tardera pas. Celui qui est juste à mes yeux, vivra par la foi. Mais s'il retourne en arrière, je ne prends pas plaisir en lui. Quant à nous, nous ne sommes pas de ceux qui retournent en arrière. Amen, ça parle de nous. Nous ne sommes pas de ceux qui retournent en arrière pour aller se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour être sauvés. Amen. Donc on est tous capables de faire preuve de patience, d'être des chrétiens joyeux, épanouis, remplis de cette patience que Dieu a scellée dans notre esprit. Amen. Ce que j'avais aujourd'hui, et en préparant ce message, c'était vraiment rien que ce mot que j'ai reçu, la patience, la persévérance. C'est quelque chose de clé, de central dans la vie de chaque chrétien. Donc merci de m'avoir donné la parole et j'espère que vous avez été bénis. Et voilà, je bénis les semences qui ont été plantées. Merci.